Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. La première des choses, c'est d'abord de s'établir, dit Lama, dans la juste motivation. Cette juste motivation, c'est vraiment l'idée que ces instructions vont être à la fois transmises, à la fois écoutées, et qu'elles le sont dans le but de pouvoir établir tous les êtres sans aucune exception, tous, donc, tous ces êtres que l'on reconnaît en même temps comme nos mères passées, et dont l'assemblée elle est considérée comme aussi vaste que l'espace, et bien tous ces êtres, nous allons penser que nous-mêmes, eh bien, nous allons les établir dans le parfait état d'éveil. Et que c'est donc dans cet esprit-là, dans cette intention-là, que nous entendons ces instructions, comme de la même manière ces instructions sont données. Il y a une parole très connue dans les instructions, dans les enseignements, qui nous dit que, en fait, tout dharma dépend uniquement de l'excellence et de la qualité de la motivation. Ce qui fait que c'est en fait la motivation qui fait le dharma. Que ce soit une explication, que ce soit le fait d'une audition, que ce soit le fait d'une méditation, le fait d'un accomplissement, cela va toujours, d'abord et avant tout, dépendre de cette qualité de la motivation. Et d'autre part, eh bien, cette motivation, elle, bien sûr qu'elle se dirige à l'égard de tous les êtres, elle nous motive à agir pour le bien de tous les êtres. Et quand on parle de tous les êtres, c'est vraiment tous les êtres sensibles. Et l'on en général, on présente les choses en considérant tout d'abord l'infinité de l'espace et en considérant que là où il y a de l'espace infini, il y a donc présence possible d'être infini. Et là où il y a des êtres en nombre infini, il y a aussi des émotions perturbatrices, il y a aussi des conditionnements en nombre infini. Et là où il y a des émotions perturbatrices et du karma, donc des conditionnements, eh bien il y a aussi des souffrances, des difficultés. Et donc l'idée est vraiment de considérer cet ensemble infini de tous les êtres, aussi vaste, cette assemblée aussi vaste que l'espace, avec vraiment l'idée de les voir, de les percevoir comme nos proches, comme nos parents, comme nos frères, comme nos sœurs, vraiment comme des êtres qui nous sont proches. Et en fait, eh bien, spirituellement parlant, nous pouvons dire que nous avons là maintenant toutes les conditions excellentes qui nous permettent de pouvoir agir pour eux ou à leur égard. Première des choses que nous avons ainsi obtenues en termes de causes et conditions, c'est une précieuse existence humaine, très rare à obtenir. Autre chose très difficile à pouvoir rencontrer et obtenir, c'est être en contact avec l'enseignement du Bouddha, entendre le Dharma, chose encore une fois que nous avons obtenue. Ce Dharma, il est rare, il est difficile de pouvoir l'entendre. Et pour l'instant, eh bien, nous pouvons l'entendre. Les maîtres spirituels qui vont transmettre ce Dharma sont aussi très rares et difficiles donc à rencontrer. Eh bien, cela encore, nous l'avons rencontré. Autre chose très rare et donc difficile à obtenir, c'est d'avoir, on pourrait dire, la tournure d'esprit ou la disposition intérieure, d'abord en se souvenant que finalement notre bonheur dépend de l'esprit, notre souffrance dépend de l'esprit. Et donc il est rare d'avoir cette disposition d'esprit qui nous ouvre à cette confiance, à cette foi en les trois rares et sublimes, à cette ouverture à l'égard du Dharma. Et cela, ce qui est rare, nous l'avons obtenu aussi. Et donc, Et donc, nous avons ainsi obtenu toutes ces causes et conditions extrêmement rares, difficiles à obtenir, telles que, eh bien, un enseignement transmis, un enseignement que l'on peut entendre, un enseignement auquel on peut réfléchir, un enseignement que l'on peut donc mettre en œuvre. Et donc, bien sûr, qu'à ce moment-là, nous avons la possibilité de développer cette bodhicitta, cet esprit d'éveil pour le bien de tous les autres. En se souvenant, dit Lama, que finalement, toute attitude altruiste est dharma par excellence, et toute attitude qui est dirigée uniquement vers soi, même si apparemment c'est le dharma, cela devient une activité ordinaire. Donc, tout cela pour dire qu'au départ, il est important de bien penser les choses, de s'orienter correctement.
Là, la tuba tiene con derva de chi me son yoris.
Voilà, donc nous allons entrer tout de suite dans les instructions, les précieuses instructions de Gampopa, en se souvenant aussi que Gampopa lui-même énonce le fait que pour toutes les personnes qui dans le futur pourraient ressentir du regret, de la tristesse à ne pas avoir eu l'occasion de le rencontrer, on pourrait dire en chair et en os, eh bien qu'il se rassure, dit-il, à travers ce texte, le Lam Chöre Nyen Ten Wa, c'est-à-dire l'ornement de la sublime voix, eh bien, ce sera comme ou équivalent au fait de me rencontrer moi-même. Donc le texte, il le commence avec Namorana Guru, qui est une salutation au maître, au précieux maître spirituel, au maître spirituel joyeux, et en disant, en fait, eh bien, cette conduite parfaitement pure est l'ornement des lamas de la précieuse lignée Kagyu. Ils sont ceux qui libèrent de l'océan des froids, si difficile à traverser que le cycle des existences. En même temps, ici, la manière donc plus littérale de traduire ce passage, au début, on dit Kanshi Koro Gyanso, Jigsuru Runshin, etc. Mais et donc, il y a l'idée de Kanshi dans le sens de qui que ce soit, c'est-à-dire qui que ce soit parmi nous qui souhaite se libérer de cet effrayant cycle des existences, effrayant pour dénoter le caractère limité des conditionnements, faut le comprendre ainsi, eh bien, va pouvoir là trouver dans ces précieuses instructions de quoi se libérer du samsara. Et il poursuit avec l'idée, il y a ce mot qui nous dit là, l'ornement, c'est-à-dire l'ornement, c'est pour parler des instructions, pour dire que ces instructions, elles sont l'ornement du chemin et de la libération. Et il utilise aussi le terme de Rinpoche pour dire ce qui est précieux, mais ce qui est précieux comme par exemple un collier de pierres précieuses, chacune de ces pierres étant une instruction précieuse. Et ensuite, eh bien, il fait référence, alors ça ne suivra pas forcément le français, mais c'est égal. Ensuite, il est question de cette eau de la bénédiction, comme des flots de bénédiction incessants et qui ne s'épuisent pas. Ensuite, il fait référence à cet océan de Menlam, c'est-à-dire des souhaits purs, cet océan de souhaits qui s'accomplissent spontanément, qui sont là spontanément présents, on pourrait dire, et qui est le fait même, ces souhaits, de l'accomplissement de cette lignée immaculée. Et en fait, là, c'est une manière de rendre hommage à cette lignée qui transmet donc ces instructions immaculées qui sont comme flot continu de grâce. Et ces instructions qui sont comme un joyau, on pourrait dire un rosaire d'or de la lignée Kagyu. Et donc, cette incomparable lignée de transmission orale qu'est la lignée Karma Kagyu, elle recèle. elle recèle en elle, ou elle contient, on pourrait dire, cette transmission parfaite de la vision du Madhyamika, c'est-à-dire de la vue du milieu. Elle est aussi lignée de transmission de l'excellence de la conduite à travers les six vertus transcendantes. Et elle est excellence aussi de la pensée à travers les instructions du mantrayana, ou on pourrait dire du vajrayana, contenu aussi dans cette lignée. Ainsi, autant au niveau de la vue, de la méditation que de l'action. Donc, autant au niveau de la vue, méditation et action, cette lignée, précieuse lignée, contient en elle ce que l'on appelle les quatre sources de transmission. Et se sont manifestés tout au cours de cette transmission de ces instructions, donc au sein de la lignée Kagyu, des maîtres spirituels incomparables et inconcevables. Et si l'on souhaite, accéder, on pourrait dire, à une version condensée, brève, de ces namtar, c'est-à-dire de ces vies édifiantes, de ces accomplis du passé, de cette
lignée.
Eh bien, on peut simplement dire qu'en fait, à partir de Dorje Chang, qui va représenter au Vajradhara, qui va représenter, on pourrait dire, le Bouddha ultime, on utilise une image ici poétique pour dire immaculé comme la lune, et eh bien, à partir
de...
Donc, cette image de la lune, c'est aussi la lune qui se reflète dans l'eau, pour dire qu'à partir d'une lune, il peut y avoir une infinité de reflets dans toutes les surfaces d'eau, où qu'elles soient. Et donc ainsi, en fait, ces manières de parler de cette, on pourrait dire, quintessence qui est source de manifestation, et cette manifestation, elle va se produire à travers, alors, et là on est vraiment dans une vision plus tantrique, elle va se traduire à travers les palais incommensurables, les manifestations de Yidam, les manifestations de déité. Ce qui est une façon, en fait, d'évoquer ici cette activité éveillée, c'est-à-dire vraiment, quand on parle d'émanation, c'est la manifestation de cette activité éveillée qui va se produire pour tous les êtres, quels qu'ils soient, en fonction de leurs besoins, nécessités, là où ils se trouvent. Et donc, Dorje Chang représente, on pourrait dire, cette source d'activité pour le bien de tous les êtres. Et dans cette perspective, eh bien, le Bouddha Shakyamuni lui-même, et à travers lui les fameux douze actes du Bouddha Shakyamuni, sont ces actes aussi une émanation de cette activité éveillée. De la même manière, les 84 000 sortes d'enseignements que le Bouddha Shakyamuni a donné sont aussi émanation de cette activité éveillée.
Je pense que j'ai dit dans mon compte. Non, je ne sais pas.
Et donc toute cette activité éveillée qui ensuite se traduit, on pourrait dire, bien sous diverses formes d'activité infinie, eh bien, toutes prennent, encore une fois, origine, naissance, on pourrait dire, en cet aspect que représente Dorje Chang, qui est cet aspect ultime.
Dorje Chang dit, « Telo pala, mouso jiti menga lam, santé jisuzunga yinjong. »
Dorje Chang, qui est source de cette transmission donnée complètement à Tilopa, qui est donc tout au départ de cette lignée. Non, mais bien sûr que Tilopa, alors c'est une façon là d'évoquer que, eh bien, on pourrait dire la quintessence de sa réalisation, il l'obtient par transmission directe avec l'éveil ultime, qui est représenté par un Vajradhara ou Dorje Chang, mais afin de pouvoir ensuite, eh bien, initier une lignée de transmission, il s'en remet lui-même aussi à des maîtres spirituels, on pourrait dire simplement humains dans leur forme. Donc, tels que Nagarjuna, tels que Tsalwapa, tels que
Tsalwapa, Lawapa,
Lawapa,
Garbazongo la Sopa,
Kalpa Zangmo, et qui sont la manière d'évoquer, on parlait avant de quatre sources de transmission qui sont contenues dans cette lignée, et bien Tilopa reçoit de ces quatre sources et bien ses instructions. Voilà, et ça c'était donc une annexe, hein. Vous n'allez pas le retrouver dans le texte même, mais c'était une précision donnée par le lama sur le sens même de cette transmission et de la lignée. Ensuite, on revient au texte où il dit « Accordez-moi votre grâce ». Donc, quand il dit « Accordez-moi votre grâce », c'est il s'adresse là à cette lignée de transmission. Et ensuite, il précise que jusqu'à lui, eh bien, elle est vraiment une dans le sens où il y a Tilopa. À partir de Tilopa, Naropa, Naropa, Marpa, premier maître tibétain, Marpa, Milarepa, et Milarepa, Gampopa.
On tenait un truc que son que Dieu.
Voilà, et donc là ensuite dans le texte, il continue dans cette même veine pour bien préciser ce qui est question, ce dont il est question dans ses instructions, en disant qu'il dit « J'ai composé ce rosaire de précieux joyaux de la sublime voix, ces instructions qui me sont chères et que je destine aux fortunés qui se rattachent à moi. » C'est-à-dire toute personne, nous, bien sûr, qui aspirons à l'obtention de l'éveil, mes disciples directs et ceux de la lignée. Et en fait, toutes ces instructions, eh bien, elles sont la quintessence de ce qu'il aura lui-même médité, mûri, et qu'il reçoit donc de cette lignée de transmission dont il est question avant.
L'homme chaud de Kirpé, Rimbaud-Ki, tu vois, non, si
et donc ce qu'il écrit ici, dit-il, eh bien, est un comme justement un rosaire, un rosaire précieux d'instruction, d'instruction de la sublime voix. D'où le titre du texte. Après, donc, une fois qu'il a établi cela, c'est-à-dire la source des instructions qu'il s'apprête à nous transmettre, Gampopa, donc il dit pourquoi, et il dit, et il le dit sous cette forme, en disant, ben, finalement, qui que ce soit, quelque individu que ce soit, et qui aspire à l'obtention de la totale libération et de l'omniscience, hein, l'omniscience étant le parfait état d'éveil ici, eh bien, il lui faudra, à cet individu, il lui faudra obtenir un certain nombre de choses. Et c'est là où il commence son texte, avec tout d'abord les 10 choses navrantes qu'il devra connaître.
Alors voilà,
la manière dont il le dit ici, il commence par donc les 10 choses navrantes. Alors pourquoi navrantes, dit Lama, parce qu'en fait, cela correspond au caractère extraordinairement précieux de ce que nous possédons. Et là, il fait référence déjà à ce que l'on appelle les 10 richesses. Les 10 richesses qui nous caractérisent en tant qu'individus qui possédons la précieuse existence humaine. Donc, ce qu'il sous-entend, c'est que si nous n'utilisons pas les richesses qui sont les nôtres, ce qui est un bien extraordinaire, eh bien, si nous ne les utilisons pas, c'est vraiment une chose bien triste. D'où l'idée de navrante. Donc, les 10 choses navrantes, c'est bien sûr les 10 choses précieuses qu'il serait navrant de ne pas utiliser. C'est ce qui est sous-entendu.
Première
chose, donc, ce précieux corps humain, pur et difficile à obtenir, eh bien, il est navrant de l'employer à accomplir des activités tout à fait ordinaires, voire même
nuisibles.
Non. Ici, on parle de vraiment « nyeparkawa », ça veut dire vraiment très difficile à obtenir. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas si évident que cela d'obtenir une précieuse existence humaine. Et l'on peut y réfléchir et s'en convaincre à travers la réflexion qu'on peut mener autour des causes, des raisons qui font que l'on puisse obtenir une précieuse existence humaine, des exemples qui l'illustrent et des probabilités. D'abord, les raisons ou les causes, c'est-à-dire ce que l'on va évoquer ici par cause, c'est le fait que pour obtenir une précieuse existence humaine, cela va dépendre de ce que nous aurons formulé comme souhait et ce que nous aurons développé comme action, on pourrait dire spirituelle, dans nos existences précédentes. Si l'on n'a pas formulé des souhaits très purs, si l'on n'a pas développé des dispositions positives et une certaine sagesse, eh bien, l'on ne peut pas, comme cela par hasard, obtenir une précieuse existence humaine.
Non,
ce qui est une manière de dire que nous aurons donc forcément dans nos existences passées déjà développé les vertus transcendantes, que nous aurons déjà développé les aspirations, les souhaits profonds. Ça veut dire que nous aurons développé de la générosité, développé de la patience, développé de l'ardeur, développé de la stabilité mentale. Nous nous serons aussi entraînés au développement de la sagesse.
Janzo Cheyen, Yakin Dong, Pugareba Jujuter, Minishan the Nipper Gasson Race, Benanji Tinja come to Janzo Chambuji Yina, they told the Tinny, King Dong Combati, the Mahon Yong Pinji Yona, the Wall of Ruber Longaji, Paxi Jai, Nabjago Walla, Paxi Jai Saro, Paxi Jai Walla, the name Ruber Longaji Yonas, Ruber the Lord Jack Jackson, the choice told us they think Jig Levy Yona, the Nitin Yakinga. Mukong theatre, but a book and drama in the red two cigarettes. They don't choose to compare it, they don't choose cigarettes. That carbamon book ring let the drug dinner.
Non, voilà. Ensuite, eh bien, il y a les exemples qui peuvent vous faire comprendre l'extraordinaire rareté de l'obtention de cette précieuse existence humaine. Et c'est cette fameuse image qu'on retrouve dans les enseignements du Bouddha où il parle là, donc. Pour comprendre cette rareté, il parle là d'une tortue aveugle. Imaginons une tortue aveugle qui vivrait dans un très profond océan à, on pourrait dire, 100 yojana, qui est une unité de mesure, mais donc une centaine de kilomètres, qui est aveugle et qui remonte à la surface de cet océan, immense océan et vaste, qui remonte une fois par siècle prendre de l'air. Et donc il y a, par ailleurs, sur la surface de cet océan, une planche, en fait un joug de bois, une planche percée donc d'un trou, et cette planche dérive au gré des courants à la surface de cet océan. Donc il y a effectivement une possibilité qu'au moment où la tortue monte à la surface pour prendre de l'air, une fois tous les 100 ans, qu'elle puisse passer exactement son cou par le trou de cette planche qui dérive à la surface. C'est une éventualité. C'est une possibilité. On peut envisager une rencontre possible entre le trou de cette planche de bois et le cou de la tortue. Mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que la tortue, comme on l'a dit, elle n'est pas tout le temps à la surface. Que d'autre part, la planche de bois, elle n'est pas tout le temps au même endroit. Que par ailleurs, la tortue est aveugle, ce qui rend la chose encore plus difficile. Et par ailleurs, la planche de bois n'a pas de conscience qui lui permettrait de savoir être trouvée ou être cherchée plutôt par une tortue. Donc, tout cela fait que c'est extrêmement peu probable, mais c'est quand même probable. Eh bien, on va utiliser cet exemple pour dire, de la même manière, il est possible d'obtenir une précieuse existence humaine, mais c'est encore plus rare que la possibilité qu'une tortue pourrait passer le cou, son cou, à travers cette planche de bois qui dérive à la surface.
Non.
Donc, d'où l'idée de navrante. C'est-à-dire que si obtenir une précieuse existence humaine aussi rare et aussi précieuse est utilisée ensuite à l'activité néfaste ou nuisible, eh bien, c'est vraiment une chose navrante.
Tene dembar kaba kave tanjur melinde kume tamrje lisa hirampons.
Non. Ensuite, eh bien, dans la même veine, ce précieux corps humain, de nouveau, pur, difficile à obtenir ou gagner, doté des 8 libertés et des 10 conditions qui le caractérisent comme précieuse existence humaine, eh bien, il est navrant de le laisser mourir dans un état, on pourrait dire, profane, ordinaire, vulgaire. Donc là, c'est une manière de dire que d'une part, la précieuse existence ou l'existence humaine peut être extraordinairement précieuse en fonction de ses causes et conditions, et que donc ces causes et conditions, eh bien, sont exprimées ici par un ensemble de richesses, les 10 richesses et les 8 libertés.
Non.
C'est une façon de pouvoir dire que parmi les existences humaines, une telle existence, donc qualifiée ainsi, ou dotée de ces qualités ainsi, est une précieuse existence humaine, donc une existence particulière parmi les existences humaines.
Non. Nyarwa, Yeda, Tonjo, Tangsam.
Quand on parle ici donc de liberté, ça veut dire que déjà, pour obtenir une précieuse existence humaine, il faut être libre de naissance défavorable. Et quand on parle de naissance défavorable, c'est des états. C'est des états d'être, on pourrait dire. Premier de ces états, c'est les expériences infernales, dont nous sommes libres. Deuxième, c'est les états d'esprit avide, et dont nous sommes libres aussi. Troisième, c'est les états du règne animal, dont nous sommes libres aussi. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi le fait d'être libre d'une naissance dans ce qu'on pourrait appeler les confins, c'est-à-dire dans un sens un peu antique, les pays barbares, dans le sens qu'ils ne sont pas touchés par une forme de culture et civilisation qui apporterait le dharma. Le fait de se manifester dans une période de temps où un Bouddha ne s'est pas manifesté, donc ce qui serait encore une non-liberté, donc nous sommes libres de cela. Le fait de renaître dans un état qui serait par exemple celui d'un deva de longue vie, qui n'est pas non plus une condition excellente, donc nous sommes libres de cette condition. Et le fait de ne pas souffrir d'infirmité. D'infirmité dans le sens de ce qui nous empêcherait la compréhension, la pratique, la mise en œuvre du dharma. Donc tout cela fait un ensemble donc de conditions dont nous sommes libres, d'où l'idée des huit libertés. Donc voilà, par exemple, c'est vrai que... Donc quand on évoque ici les libertés, donc, c'est à contrario les états dont, on pourrait dire, ou plutôt cela exprime simplement les états dont nous sommes libres. Donc effectivement, être libre des expériences infernales, ça veut dire être libre des tourments, alors caractérisés par ces tourments du chaud et du froid intense, mais dont nous sommes libres, et qui ne représenteraient pas, si nous y étions, des conditions permettant la pratique du dharma. De la même manière, nous sommes libres d'un état d'esprit avide, sans cesse tourmenté par la faim et par la soif, qui ne pourrait pas non plus, dans ce cas-là, parfaitement pratiquer le dharma. Et nous sommes libres aussi des états du règne animal, marqués, caractérisés par une certaine limite d'action, une forme donc d'intelligence qui ne leur permet pas d'agir véritablement dans le sens d'une pratique du dharma. Ceux qui vivent aux confins, même si ce sont des êtres humains, dans le sens qu'ils n'ont pas accès à la possibilité d'une pratique du dharma ou de la pratique du dharma, eh bien n'ont pas même l'idée donc de cette pratique, peuvent aussi être simplement contraints par diverses traditions qui peuvent les conduire à développer des actes négatifs et par simple attachement à ces traditions les perpétuer. Donc cela ne représente pas non plus des véritables libertés. Non. Si l'on est un deva de longue vie, eh bien même cela, ce n'est pas finalement une liberté, étant donné que la félicité à ce moment-là est telle, on pourrait parler d'une ivresse de la félicité des devas, eh bien elle est telle qu'elle ne laisse pas non plus cette possibilité de la pratique du dharma. Les personnes ensuite qui s'attachent à des vues erronées, ce qu'on entend par vues erronées ici, c'est finalement toute disposition mentale, mais aussi intellectuelle, qui vise à ne pas reconnaître les qualités des trois rares et sublimes, Bouddha, Dharma et Sangha, qui vise à ne pas reconnaître l'utilité d'abandonner l'activité néfaste et d'accomplir de la vertu, eh bien, tout cela, cette tournure, on pourrait dire, d'esprit, n'offre pas la possibilité non plus de cette pratique du Dharma.
Mmh. tomba. Sang ji ji tomba re, de de ne de ne, kyu da gawa su tra tum tu ya yo ma re, tu de ba koko yo ma re.
Sur un plan plus cosmique, on pourrait dire, eh bien, il y a des temps cosmiques où un Bouddha n'apparaît pas. Dans ce cas-là, ça signifie que c'est un temps où peut-être un Bouddha est apparu avant, mais il n'y est plus. Il n'est pas encore apparu, donc il n'y est pas. Et donc, pendant ce temps-là, un temps vide de Bouddha, comme on le dit littéralement, eh bien, il n'y a pas non plus de possibilité d'accéder à cet enseignement, ce qui, de nouveau, eh bien, signifierait là un état non opportun, dont nous sommes libres.
Ta kupa am lumbo sen ta semla alors que duchi zongé duchi ya ma chenke regina tene chute pas quoi comme il m'a dit.
Ensuite, on parlait d'infirmité, mais dans le sens, en fait, plutôt de nouveau d'une tournure d'esprit, c'est-à-dire... Par exemple, quelqu'un qui n'arriverait pas du tout à pouvoir distinguer conceptuellement ce qui est un acte positif ou un acte négatif, qui donc ne pourrait pas s'orienter conceptuellement de manière à pouvoir envisager la pratique du dharma. Donc là, ce serait encore un empêchement dont nous sommes libres.
Non.
Voilà, donc voilà, ici nous parlons de l'obtention de 8 libertés, ben c'est ce que nous obtenons en fait, c'est-à-dire que nous sommes libres de ces conditions inopportunes. Ensuite se rajoutent à cela 10 richesses, 5 qui nous concernent, on pourrait dire directement, et 5 qui concernent l'environnement dans lequel nous évoluons. Non. Alors, déjà, première richesse, c'est le fait d'être un être humain. Ça, c'est une première richesse fondamentale. Non. Deuxième richesse fondamentale, c'est d'exister dans un, on pourrait dire, dans un lieu où l'enseignement du Bouddha est présent. Un Bouddha s'est manifesté dans notre monde.
Non.
Troisième richesse, c'est que nous avons en totalité nos facultés, facultés sensorielles. C'est-à-dire nous pouvons agir, nous pouvons comprendre, etc.
Non.
Quatrièmement, nous sommes libres, on pourrait dire, de conditions socio-économiques contraignantes. Hein, c'est l'idée des castes, par exemple. Où, donc nous ne sommes pas obligés de poursuivre une activité telle que être boucher parce que notre père est boucher, ou être pêcheur parce que notre père est pêcheur, n'importe. Donc nous sommes libres d'une rigidité ou d'une contrainte sociale et économique.
Non. Non.
Donc là, eh bien, nous avons de la liberté forcément par rapport à cela. Nous avons une disposition intérieure qui nous amène à avoir confiance, on pourrait dire au départ, confiance en l'enseignement du Bouddha, ce qui est aussi une richesse. Donc si nous possédons ces 5 richesses, c'est ces 5 richesses que, on pourrait dire, nous possédons en propre. Cinq richesses ensuite, donc, qui concernent le monde dans lequel on a vécu. Alors, une qu'on a déjà un peu retrouvée avant, c'est le fait que, eh bien, un Bouddha s'est manifesté dans notre monde.
Non.
Mais il ne suffit pas non plus qu'un Bouddha se soit manifesté. Il peut y avoir un Bouddha, par exemple un Pratyeka Bouddha, qui sont les Bouddhas solitaires, on pourrait dire, et qui n'enseignent pas. Ils peuvent réaliser l'éveil, ne pas enseigner. En l'occurrence, le Bouddha Shakyamuni a enseigné. Il a enseigné les 3 véhicules, c'est-à-dire le Hinayana, le Mahayana, le Vatayana. Donc, et ça, c'est la deuxième richesse, donc, dans le monde dans lequel on évolue.
Hein?
Là, Mais il ne suffit pas non plus qu'il ait enseigné. Donc, d'où l'idée de la troisième richesse, c'est le fait que cet enseignement perdure. Il aurait pu enseigner et cet enseignement se perdre. Ce n'est pas le cas. Troisième richesse. Mais ensuite, quatrième richesse, cet enseignement a beau perdurer, faut-il encore qu'il soit mis en œuvre? Et il est mis en œuvre. Il y a des communautés monastiques, de moines, de nonnes, il y a des bodhisattvas, donc c'est-à-dire des pratiquants laïcs, hommes, femmes, etc. Tous deviennent potentiellement des exemples de la pratique spirituelle.
Quatrième richesse.
Et cinquième richesse, qui est de nouveau une richesse de l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est, on pourrait le traduire par le soutien social, c'est-à-dire que nous ne sommes pas réduits à être un méditant perdu dans une montagne auquel personne ne s'intéresse. C'est-à-dire que là, il y a des possibilités de vivre, de survivre, qui sont fournies par des gens qui auront eh bien, une certaine foi, confiance dans la démarche spirituelle et qui nous aideront à la mener. Est-ce qu'il y a aussi une richesse?
Mais
par exemple, moi, dit la maman, vous voyez, je ne sais pas même un seul mot de votre langue et pourtant j'arrive quand même à survivre. Ce qui est quand même un peu une preuve de ça.
Non.
Ça doit être la qualité du dharma, sans aucun doute. Voilà, donc ici nous évoquons les huit libertés, c'est-à-dire huit situations que nous obtenons du fait que nous soyons libres de ces huit conditions contraires, et dix richesses. Et donc c'est ce qui fait que nous pouvons dire de nous que nous possédons une précieuse existence humaine, libre et bien pourvue. En tibétain, on parle d'une telle existence comme Echeotampa. Echeotampa, c'est une manière de dire à l'individu suprême. C'est à peu près l'équivalent qu'on trouve en sanskrit quand on dit le Purusha. Le Purusha, c'est vraiment, pourrait dire, le super-héros, quoi, l'être idéal. Donc voilà, nous sommes cela.
Non.
Ici, ça signifie que donc nous avons une existence humaine qui va nous permettre d'accomplir un très grand but et qui possède toute la force, toute l'aptitude permettant de le faire.
Non.
En clair, ça veut dire que nous avons Donc nous avons toute la possibilité, là maintenant dans notre existence, de pouvoir, à partir de là où nous sommes, parfaitement nous rendre dans une terre pure ou obtenir le corps d'arc-en-ciel, ce qui signifie dans cette vie, pouvoir parfaitement réaliser l'éveil. Non. Souvent on dit, d'ailleurs en tibétain on dit Milu Rinpoche. Rinpoche ça veut dire très précieux, mais ça veut dire aussi le joyau. Et donc là aussi c'est une image, c'est l'image du le plus extraordinaire des joyaux, c'est le joyau qui exauce tous les souhaits, bien sûr. C'est celui que l'on met sur un autel et celui à qui on adresse ses souhaits et l'on voit ses souhaits être dans l'instant, être parfaitement accomplis. Et donc c'est une image pour parler de cette précieuse existence humaine et pour dire qu'elle est encore plus précieuse que ce joyau qui exauce tous les souhaits.
Oh, t'es tanjir ki melü demba melü de dembar kabe melü zuman de çüme tamar do çena çedo pomba yin son
non
çüme do ne tamar ba non ki çedo na teni koma çobar
non. Voilà, et donc, c'est pourquoi ici, dans cette deuxième instruction, il dit, à partir du moment où nous possédons cette précieuse existence humaine libre et bien pourvue, la laisser dans un état de non-activité spirituelle, c'est-à-dire de un état complètement ordinaire, et de mourir, donc, sans avoir utilisé ces conditions extraordinaires, est terriblement navrant. C'est ce qu'il exprime. Non.
Non. Nyingme tuje mese yuntong yunsumde tome kyabe lela setum pungsore.
Voilà, troisième instruction, il dit ce bref instant que dure en cet état résiduel, c'est-à-dire de nos jours, on pourrait le dire, hein, dans ces temps marqués par des différentes formes de dégénérescence. Donc ce bref instant que dure la vie de l'humain que nous sommes, eh bien, il est navrant de l'épuiser en des actes insensés. Non, ici on parle de Nyingma pour
qui note Nyingma Ngado.
Nyingma de la Mendo. Non, de la Mendo.
Ta tse Nyingma.
Non,
tse Nyingma. Tuji Nyingma.
Voilà, donc ici, on parle de nyingma pour dire résiduel, mais pour dire aussi les formes de dégénérescence, c'est-à-dire les dégénérescences qui touchent l'état des êtres. Et là, on parle de, par exemple, dégénérescence du temps, ou dégénérescence des principes vitaux, ou dégénérescence des êtres. Quand on parle de dégénérescence, par exemple, de l'énergie vitale, c'est dire qu'il peut y avoir beaucoup d'obstacles à la vie des êtres, au sens très large. Quand on parle de dégénérescence ou détérioration des temps, c'est la notion d'époque. C'est par exemple toutes les catastrophes naturelles qui augmentent, que ce soit les incendies, les tremblements de terre, les inondations, les conditions aussi, on pourrait dire, politiques, c'est-à-dire les conflits armés, les famines, tout ce type de situation, et qui suppose aussi, bien sûr, des dangers pour l'existence, des dangers pour les conditions opportunes, favorables à la pratique spirituelle. C'est aussi une forme de dégénérescence. Mais c'est aussi, par exemple, détérioration dans le sens des conditions même de vie, où l'on rencontre plus de difficultés ou de dangers pour notre existence ou pour survivre. C'est aussi dégénérescence du dharma, hein, dans le sens où il devient difficile de supporter les adversités, de s'adonner pleinement à la pratique. Quand on parle de dégénérescence des êtres, c'est le fait que les êtres soient marqués par de nombreuses infirmités, que ce soit des infirmités physiques, mais psychiques aussi, bien sûr. La dégénérescence des émotions perturbatrices aussi, c'est simplement dire que, augmente par rapport à des temps précédents, augmente le désir, l'attachement, la haine, l'aversion, la jalousie, l'orgueil.
C'est
Par exemple, pour l'attachement, on peut dire être comblé précédemment par des choses relativement simples et finir par ne plus même être comblé par ces choses simples. Quand on parle, on l'a dit un peu avant déjà, mais cette dégénérescence donc de l'existence, c'est les conditions, donc les dangers en fait simplement qui augmentent. Et avant, on parlait de dégénérescence du temps ou des époques, mais c'est aussi le déséquilibre des quatre grands éléments. Quatre grands éléments. Et qui font que ben, l'été n'est plus tout à fait l'été, l'hiver plus tout à fait l'hiver, le printemps plus tout à fait le printemps, et qui traduit aussi ces temps marqués par des formes de
dégénérescence.
Voilà, et ce qu'il dit ici, c'est, eh bien, en ces temps résiduels, ou plutôt en ces périodes marquées par les différentes dégénérescences, en fait, on pourrait dire aussi ainsi, eh bien, l'existence humaine, finalement, n'est qu'un instant extrêmement court. Donc, ne pas se saisir de cet instant dans le sens d'un accomplissement spirituel est vraiment l'affront. Et dit, là, ce qui est vraiment navrant, finalement, par rapport à cela, ou considérant cela, eh bien, c'est de perdre en fait ce temps précieux en des activités qui n'ont pas de sens. Et qui sont toutes les activités finalement ordinaires. Et là, Lama rajoute une dimension, c'est tout faire comme si nous restions longtemps alors que nous ne sommes que destinés à partir finalement. L'instruction d'après, il nous dit, cet esprit dont la nature propre, la nature essentielle en fait, est le corps de vacuité, donc le dharmakaya, le corps de vacuité, dépourvu de toute production mentale, eh bien il est vraiment navrant de le laisser sombrer dans l'illusion, dans les perceptions illusoires, dans ce qu'il appelle, il utilise une image, dans ce marécage qu'est le cycle des existences, c'est-à-dire se retrouver comme embourbé dans les perceptions illusoires, et ne pas voir là, en cela, le dharmakaya. Et donc, là, la malcondance, en disant, notre esprit est le Bouddha, et nos phénomènes mentaux, en fait, traduisent la vacuité dans leur quintessence. Et donc, à travers la pratique de Shiné ou Shaktong, c'est-à-dire Shamatha, Vipassana, eh bien, cela va nous permettre de pouvoir reconnaître au moment même où s'élève une pensée, reconnaître sa nature ultime et donc cesser de vouloir interagir en pensant soit vouloir s'en débarrasser, soit vouloir en faire quelque chose. Et donc, il n'y a que cela à faire, en fait. L'instruction suivante dit, il nous dit, ce saint maître spirituel, excellent maître spirituel qui nous guide sur le chemin, eh bien, il est navrant de le quitter avant d'avoir atteint l'éveil. Non, ça c'est clair.
Tarpe tarpa tumchin chebe lanan drobe draya dhruzing nongshin. Korba dunga ke jansho chenpo le pa dhobri chebe dhruzing nongshin te tomba ta tumsik yin songre.
Voilà, ensuite, l'instruction qui vient là, il parle vraiment de ce vaisseau dans le sens de cette embarcation, donc tous les moyens qui vont nous permettre d'atteindre l'éveil. Et finalement, cela illustre cette embarcation, les engagements initiatiques, mais aussi les vœux, les promesses spirituelles que nous formulons.
Tanda sotar ki domba chonsim ka domba siya dhavu tani tanda yon sangha ka domba dhavu sangha kala domba le tumsik
la so
ki che vare
non. Voilà, ici le terme de dompa pour dire les vœux c'est toutes sortes, c'est autant les vœux de libération individuelle, ce qui revient à parler des vœux de moine et de nun, qui sont des formes de vœux, mais, évidemment, mais aussi les vœux de bodhisattva, bodhisattvi, donc qui touchent à la motivation, qui sont des vœux aussi, les vœux du vatayana, donc du véhicule tantrique, mais là qui reviennent à parler donc des damtik ou des samaya, des liens initiatiques. Tout cela recouvre donc la notion d'engagement spirituel. Et donc tout cela, c'est-à-dire ces engagements spirituels qui sont notre vaisseau qui nous permet d'atteindre l'éveil, eh bien, il serait vraiment navrant de le voir être détruit par simplement les circonstances auxquelles nous nous soumettons et aussi aux émotions perturbatrices. Et ce qui signifie ici la notion de manque de vigilance, la notion de manque d'attention. L'instruction d'après est la réalisation et l'expérience que l'on a obtenue par la grâce du maître spirituel, eh bien, il est navrant de les laisser se perdre dans la jungle de l'activité ordinaire, mondaine. Voilà, donc bien sûr que cela qui est né en nous du fait des instructions du maître spirituel que donc nous avons accompli, mis en œuvre, eh bien cela qui est précieux, expérience spirituelle et réalisation, les laisser ainsi se perdre dans des activités de nouveau inconséquentes, eh bien est navrant. Ensuite, les profondes instructions des êtres accomplis, il est navrant de les vendre à des profanes qui ne sont pas aptes à les recevoir. Voilà, donc là, c'est assez explicite. Hein. Il dit c'est vraiment navrant d'utiliser des précieuses instructions spirituelles en vue de pouvoir en faire commerce et donc de les vendre ainsi, alors au sens propre ou figuré, mais finalement à des individus tout à fait ordinaires auxquels finalement elles ne sont pas destinées car ils n'en ont pas vraiment un intérêt. Voilà, ensuite, les êtres vivants qui tous ont été nos mères passées, eh bien, nous devrions avoir pour eux de la gratitude, hein, amour et compassion, mais de la gratitude, eh bien, il est navrant de les abandonner et de les rejeter par aversion. Par ailleurs, parenthèse, dilemma, si jamais il y a un point qui n'est pas clair, hein, ce qui est tout à fait envisageable, dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous levez tout de suite la main et vous posez la question, comme ça on clarifie. Voilà, et l'instruction suivante, ce corps, cette parole et cet esprit, dans le plein épanouissement de la jeunesse ou de la vitalité, hein, il est navrant de les laisser retomber dans l'indifférence ordinaire. Non. Voilà, ainsi donc se termine ce qu'il indique comme étant les 10 choses navrantes. Ensuite, les 10 choses nécessaires. Voilà, ce dont nous avons besoin. Première des choses, ayant estimé ses propres capacités, il est nécessaire de ne pas se tromper dans le choix initial. Ensuite, avec confiance et diligence, donc diligence est fort, hein, énergie on pourrait dire, il est nécessaire d'agir selon les instructions d'un maître spirituel qualifié. Ici, on parle de tang dans le de tepa dans le sens de foi confiance, mais il y a trois formes de foi confiance. Il y a celle qu'on en appelle la confiance de la certitude ou la foi de la certitude, et l'autre qui est la foi de l'aspiration et l'autre qui est la foi pure. Celle que l'on appelle en tibétain « tang et tepa » qu'on peut traduire par « foi pure », mais ça ne veut pas dire que forcément c'est la plus excellente, mais c'est celle qui est, on pourrait dire, la plus immédiate, celle que l'on ressent, qui est au niveau de ce que l'on ressent, par exemple, face à un maître spirituel, du fait de l'entendre, de le voir, ou un support du Bouddha, et donc des corps, paroles et esprits, donc de l'activité éveillée, qui va, par exemple, nous faire avoir de la chair de poule ou pourquoi pas même des larmes dans les yeux, etc. Cette forme de transport de l'esprit, on pourrait dire, eh bien, c'est ce qu'on appelle tang et tepa, c'est-à-dire la foi pure. En même temps, c'est une chose magnifique en soi, parce qu'on considère que chaque fois que cela nous le ressentons, eh bien, ce sont des voiles et des négativités en nombre incalculable qui sont ainsi purifiées en un seul instant. Ce que l'on appelle la foi de la confiance ou de la certitude, eh bien, là, eh bien, c'est la compréhension sans faille, l'absence totale donc, de doute que nous avons en l'enseignement du Bouddha, parce que nous nous y sommes penchés et que nous avons vraiment parfaitement compris ce dont il est question, autant dans les versions exhaustives de la transmission de cet enseignement que dans des versions plus intermédiaires, que dans des versions les plus condensées.
Non. Sumba tanda ni ba de la sa son
non
et je te ba
de pété pas tanda
non de pété pas sangue de nyom so lombe chu kimbo da je du kari na de jabo ti de pa nyor de ngaro de nyor de tanda pa
la so
tanda pa.
Non. Voilà. Ensuite, troisième forme de confiance que l'on indique en tibétain en disant de paix était pas. Et on pourrait dire littéralement, c'est la foi du désir dans le sens de ce à quoi nous aspirons. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est le désir de voir nos voiles, nos négativités être totalement purifiées. Et comprenant cela comme étant rendu possible par la pratique spirituelle, qu'elle soit conçue de manière de nouveau très développée ou très condensée. Bref, c'est vraiment aspirer à cette purification. Non, ça traduit aussi l'idée d'aspirer à des conditions d'existence favorables, même si ce n'est pas forcément l'éveil, en termes donc de conditions humaines, etc. Mais c'est aussi aspirer à une certaine connaissance aussi. Non. Donc, là, nous revenons à cette deuxième instruction où il est question justement de cette notion de foi-confiance. Donc, ayant ainsi ou avec confiance et diligence, donc énergie, eh bien, il est nécessaire, on parle des nécessités, d'agir selon ces instructions spirituelles reçues par le maître spirituel.
Non.
Voilà, ensuite, ayant pris connaissance alors, des différentes sortes de formes ou des particularités des différents types d'instructions spirituelles, il est nécessaire cette fois-ci de choisir sans se tromper celles qui nous conviennent parmi tout ce que peut transmettre le maître spirituel ou les maîtres spirituels en fait.
T'es à coup de...
Non, c'est assez clair. Hein? Ensuite, réunissant sagesse, confiance et persévérance, il est nécessaire de recevoir l'intégralité de l'esprit du maître spirituel, c'est-à-dire finalement obtenir complètement une réalisation spirituelle égale à la sienne. Mais c'est aussi l'idée. Mais c'est aussi l'idée, ici, Lama le précise, de bien comprendre et d'une manière très claire les différents niveaux auxquels se place ou se trouve les instructions spirituelles. En tibétain, on parle de Tangdun et Ngedun. Ça veut dire le sens, on pourrait dire littéral, et le sens ultime. Et d'avoir une vue bien claire sur ce qui est de l'ordre du sens littéral et de ce qui est de l'ordre du sens ultime. Ensuite, usant de présence d'esprit, de vigilance, de prudence, il est nécessaire de conserver sans tâche, donc parfaitement pur, on pourrait dire, l'activité du corps, de la parole, de l'esprit. Cette idée de présence, de vigilance, d'attention. Ensuite, agissant sans attachement, il est nécessaire de ne pas se laisser mener au gré d'autrui. Littéralement, ici, on parle d'armure.
Hein.
Là, ça va. Oui, là, voilà, c'est bien. C'est-à-dire, ici, c'est l'armure dans le sens de la fermeté de la promesse, c'est-à-dire, en fait, ce à quoi l'on se tient d'une manière très ferme et claire.
ngaro ko donga kari na te ta jo matap che par to ngaro ko te ni ta nyamon kong ko on to tong mi ji te ke cha ko kong ko on to tong ji mi a sam be tam cha che pa che re ta
tam cha bon pourquoi pas cette traduction mais là elle s'écarte de loin du sens littéral, mais qui est intéressant parce qu'il y a cette idée d'armure dans le sens de fermeté, c'est-à-dire l'idée que quelles que soient les émotions perturbatrices ou les émotions perturbatrices qui peuvent être les nôtres, quelles que soient les incitations qui peuvent venir d'autrui, nous ne lâchons pas ce qui est essentiel et fondamental. D'où cette idée de la fermeté de l'armure de la.
Ning top sena de pont de mare de drop de mare sa ba ni ta ma me ba
non
on dit que na ne pont top sa ba ji da de dit que na drop top sa ba ji de ya ta cho ba ji
non
ko ji ya ta ning top se ro
ba non ko cha
ning top ye ye dam se de yi la tam cha chen bo
non
tam cha tam bo sa ba ji
non. Non, là, le sens littéral est plus fort, parce qu'il y a vraiment « kocha tang nintop » et « kocha tang nintop », c'est l'armure et la vaillance. Hein? « Nintop », c'est pas que la volonté. « Nintop », c'est la force du cœur, donc c'est la vaillance. Donc ça veut dire avec vaillance et fermeté, pour reprendre l'image au sens figuré de l'armure, avec vaillance et fermeté, se tenir à ce qui est essentiel à l'esprit. Hein? Et c'est vraiment cette notion après qu'on retrouve ici de yidam. Donc vraiment s'attacher à l'esprit, à ce qui est essentiel.
Non.
Non. Et là, ben, clairement, ça veut dire que si nous sommes dotés de ces qualités-là, eh bien, dit Lama, rien ni personne ne peut nous faire faillir. C'est-à-dire que ni la puissance de l'attachement, ni la haine, ni l'aversion, ni notre opacité mentale peuvent nous faire faillir. Car nous avons cette vaillance, nous avons cette fermeté en soi à laquelle nous nous en remettons complètement, intérieurement. La sœur.
Te jureng por te ke che bare
non
rondong te ke chung bare yendong de ba te ke che bare
non
to manar ba che kuris
ça veut dire aussi ne pas se tromper sur ce qui est essentiel et ici dit lama bah finalement notre vie est courte alors que nos existences sont nombreuses ça c'est déjà une première chose et ne pas se tromper entre les deux et deuxièmement eh bien il est plus important d'agir pour le bien d'autrui que de vouloir agir pour son seul bien propre. Et là, ce sont justement des notions qu'il faut avoir clairement à l'esprit. Non. En fait, il est possible qu'il y ait eu simplement une inversion. Je ne sais pas comment c'est dans votre tête. Bon, bref. Ensuite, c'est justement agir sans attachement. Il est nécessaire, alors cette fois-ci, de ne pas se laisser aller au gré d'autrui. Là, on peut comprendre comme ça.
Kochata nye doko ta ta na tani ta changme hime je jope nata mala machar vachi gus.
Non, voilà, alors, je pense pas que vous ayez la phonétique hein, dans le texte, non, bon, bref. Donc, si vous lisez le tibétain, là où c'est marqué chame shenme ki chupe nata mila mashor washigue, eh bien là, eh bien, c'est agir sans attachement. Agissant sans attachement, il est nécessaire de ne pas se laisser mener au gré d'autrui. Il y a juste une inversion.
Chame sena tangaro jitin deye, jener, attends, ni tang. troutan la sopa. Ah, tani sa gen komba la sopa ta tente
la so
ya guje. Tan so la tani cha gen ke jo.
La so.
Yen ba ke jo mas.
La so. Ici on utilise le terme quoi, il utilise donc pas le terme de chame. Et chame ça veut dire sans attachement. Sans attachement ça veut dire sans être pris finalement par les liens ordinaires, mais dans le sens d'y être soumis, que ce soit les liens familiaux, les liens avec les choses, les possessions, les richesses.
Oh, cha, cha, c'est un docha qui peut être là.
Là,
un docha qui est là. Tu n'as pas donc je ne la cha, cha na, tu la cha na, ni la cha na. Tu n'as pas donc je ne consomme que des carrés. Quelle le cha na yo roba
garon
ko yu la cha na
non
o te la cha se ke twa
cha non
cha hi se ke te ma tong ba re
non
cha se ke te tsa long wa roba
non
hi se ke te pa ma tong ba zin da ba ju re
non oui c'est un terme très intéressant et là lama l'explique bien dans son étymologie. En tibétain on parle de shen cha mais d'abord il parle de cha et cha c'est vraiment l'attachement dans le sens de être attaché, mais dans le sens de tellement que l'on est soumis à. Par exemple, les choses. Ça peut être son propre corps, ça peut être ses proches, ça peut être ses amis. Et ensuite, l'autre terme, shen, shen, qui se colle les deux, shen cha, et shen, c'est le fait de ne pas pouvoir lâcher. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par que, en fait, ce n'est pas qu'on est pris par, c'est que nous prenons. Hein. En tibétain, ce n'est pas qu'on est pris par une chose, c'est que nous prenons la chose. Donc, on est tellement, mais pour le dire en français, on est tellement pris par quelque chose qu'on ne peut pas lâcher cette chose.
Non,
et c'est pourquoi qu'on dira, c'est pourquoi nous dirons dans les enseignements, on trouvera cette fameuse phrase dans les enseignements qui dit ou qui parle de la chaîne des attachements des proches et des amis, dans le sens où si nous sommes soumis à ces liens, nous y sommes soumis comme des chaînes qui nous entravent. Et qui, du coup, rendra impossible, finalement, toute démarche émancipatrice, hein, donc dans le sens de l'obtention de la libération.
Non.
Alors maintenant, mais bien sûr, dit Lama, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit se détacher de tout, comme on le dirait sous une forme de formule, il faut que je me détache. Non, on n'a rien à se détacher. Dans le sens, dit Lama, on a besoin de toutes ces choses, là, dans notre vie. On a besoin d'amitié, on a besoin d'objets, on a besoin... aucun problème avec ça. Simplement, on en a besoin dans une certaine mesure. Et la mesure de cela, c'est simplement la mesure de notre existence, mais pas plus que cela.
Non.
Donc, deux choses à se souvenir par rapport à ça, c'est que d'abord, c'est temporaire, mais il faut savoir se servir des choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des choses temporaires, et savoir s'en servir avec intelligence. Et dans ce cas-là, aucun problème.
Ça
dit quelque chose de l'attitude finalement qu'on a à l'égard de toute chose, même à l'égard d'une part infime de nourriture, prenons cet exemple. Une nourriture quelle qu'elle soit, pour avoir été ou pour être produite, eh bien, il a fallu, ou les personnes, toute la chaîne d'individus qui ont agi, ont dû chacun développer des actes qui ne sont pas toujours des actes extraordinairement vertueux pour avoir réussi à produire ne serait-ce qu'une part infime de nourriture qui finalement arrive dans notre main.
Non. ngarong chagi meba ke lote yon me jin ge on de ma sher wa ji ku de se da jin mong bo yo ren ga zo jin ge on de cha na te ni na ta ma de cha ba na ta se na na po te na ge po ne te ni sem jin na po te ta ba ji na te ni ka na te na ti to ku la.
Donc, par rapport à cet attachement, ben, c'est de se rendre compte qu'il nous faut donc en prendre soin sans y être soumis à, pour la moindre chose. Mais pour en revenir à la phrase, ici, on parle à un moment donné de voilà, nata. Et nata, c'est la corde qui tire le nez. C'est-à-dire que nos attachements, quand on parle d'y être soumis, c'est ne pas être comme un individu à qui on a passé un anneau dans le nez et qui est dirigé, qui est conduit par ses attachements. Toute la question de la liberté ici.
Non.
Et donc ici, eh bien, cette corde qui nous tire le nez, ce sont évidemment les circonstances permettant le développement de ces attachements.
Non.
Non. Ah, ça, c'est une instruction. Bien sûr, tout est tout à fait nécessaire, mais c'est tout à fait nécessaire, celle-ci. Parce que c'est comprendre que, du coup, amitié et inimitié, c'est pas là la différence. La différence, c'est d'être contraint ou pas par les attachements que nous nourrissons. On peut être tout autant attaché à, à une inimitié qu'à une amitié. Et elle peut être tout autant, on pourrait dire, contraignante que n'importe quel autre attachement.
Non.
Et l'instruction d'après nous dit, utilisant les préliminaires, le corps de la pratique et la phase post-méditative, il est nécessaire de persévérer sans relâche en rassemblant les deux accumulations. Là, alors là, en très résumé, il parle... Voilà, alors là, ça évoque en trois mots toute la pratique spirituelle, parce que Jorwa, c'est tout ce qui est nécessaire en termes préliminaires à une pratique spirituelle. C'est-à-dire, par exemple, les vœux de refuge, le développement de, de l'esprit d'éveil. Ensuite, là, c'est en trois syllabes. Jor, donc les préliminaires. Ne pour Ngushi. Et Ngushi qui veut dire le corps principal de la pratique. Et en fait, littéralement, Dilama, on parlera de cela comme étant sans rapport conceptuel. Cela signifie qu'au moment même où nous pratiquons, nous ne sommes pas avec l'esprit qui dévie sur un objet, une fantaisie, n'importe, auquel que nous saisirions. Et Jé, eh bien, c'est la conclusion, c'est ce qui vient après, et ce qui vient après, c'est la délicatesse. C'est-à-dire que tout ce que nous aurons spirituellement accompli, au moment où nous l'accomplissons, eh bien, ensuite, on conclut par la délicatesse. C'est-à-dire qu'on l'offre alors à tous les êtres, c'est une manière de le dédier, on la dédie à tous les êtres, c'est-à-dire en souhaitant que cela devienne la cause de l'obtention de l'éveil pour tous les êtres sans exception. En fait, donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que tout développement des activités positives, comme de la sagesse la plus ultime, eh bien, on la concevra toujours à travers ces trois phases, c'est-à-dire la phase préliminaire où nous nous installons dans l'intention en prenant refuge, en développant l'esprit d'éveil, donc l'amour, compassion pour tous les êtres. Ensuite, dans la deuxième phase, qui est la manière de l'accomplir, cette pratique, c'est-à-dire en étant finalement non distrait, c'est-à-dire on n'est pas soumis à notre distraction, on est présent et attentif. Et la troisième phase, qui est la phase de la dédicace, où tout ce que nous aurons alors accompli, eh bien, nous le dédions dans sa totalité à l'obtention de l'éveil pour tous les êtres, sans exception. Ce qui va nous permettre ensuite de ne pas voir être endommagé, en quelque sorte, les qualités que nous aurons développées, étant donné que nous les avons d'ores et déjà tout
offertes.
Là, ici, dans cette instruction, on parle des deux accumulations. En fait, la première, c'est ce qu'on appelle toutes les dispositions positives. En clair, ça veut dire quoi? En clair, c'est toutes les actions spirituelles que l'on accomplit en référence à des notions et des pensées. C'est-à-dire que quand on n'agit jamais hors d'une notion qui nous fait agir. Donc ça, c'est toutes les dispositions positives, développement de toutes les qualités qu'on peut imaginer. Le développement de la sagesse, c'est tout ce qui est non référentiel, c'est-à-dire tout ce qui est non conceptuel. C'est la contemplation de la vacuité, de la nature ultime des phénomènes. Donc en fait, on agit sur les deux plans, à la fois sur le plan des actions référencées par nos pensées et des actions non référencées, qui est la contemplation ultime.
Non.
Ensuite, avec amour et compassion, il est nécessaire de tourner notre esprit vers l'accomplissement direct ou indirect du bien des êtres.
Non.
Voilà, et ici on parle d'amour et de compassion. Donc d'abord, Ningjie, c'est-à-dire l'amour, c'est le souhait que tous les êtres possèdent le bonheur et les causes du bonheur. Et la compassion, c'est le souhait qu'ils soient libres de la souffrance ou des souffrances, mais aussi des causes de la souffrance. Voilà, ensuite, en tibétain, il dit vraiment « me », et « me », ça veut dire « véritablement ». Ça veut dire que bah, si on, c'est pratiquement parlant, c'est-à-dire pratiquement parlant, avec amour et compassion, agir pour réduire les souffrances des êtres, les établir dans le bonheur, évidemment.
Non.
Ensuite, gu, c'est vraiment, on pourrait dire, de manière indirecte. Et indirecte, eh bien, c'est autant toutes les causes et conditions que l'on peut indirectement mettre en place afin que les êtres possèdent le bonheur et soient libérés de la souffrance, mais c'est aussi jusqu'aux souhaits qu'on peut formuler et qui sont une action indirecte qui vise aussi à l'établissement du bonheur et la libération de la souffrance de tout le monde.
Chaba, kare jena yon, sem yendong kona la chosa lo chokpa shi.
Et en fait, en clair, dit Lama, ça veut dire que toutes nos actions, elles doivent être donc motivées, qu'elles soient directes ou indirectes, par l'amour et la compassion dirigées vers autrui, en fait.
Shirab tang koto je, chue tamje, ngopo tang, semmer, ma chokpa shi gu son doa.
Non. Et ensuite, unissant sagesse, compréhension et réalisation, il est nécessaire de ne pas se laisser aller à saisir les objets de connaissance comme possédant substance et caractéristiques propres. Alors là, c'est un peu touffu.
Non.
En fait, là, ce que cela exprime, c'est qu'il est nécessaire, en fait, de connaître les phénomènes et de savoir que tout phénomène, quel qu'il soit, est toujours libre d'existence propre. Hein. Il n'a pas de substantialité, il n'a pas intrinsèquement parlant. Hein. Donc, ils sont tous libres d'existence propre. Et cela, cette connaissance ultime, compliquée, d'accord, eh bien, elle va s'aborder par la trois manières. Il parle de sherap, c'est-à-dire la sagesse, dans le sens de la réflexion, de la compréhension. Il parle de koa, koa qui veut dire aussi l'entendement, le fait de bien comprendre ce que l'on entend par l'idée de vacuité, etc. Et il parle aussi de tokpa. Et tokpa, c'est la réalisation, c'est-à-dire c'est plus là le moyen intellectuel, mais c'est la réalisation que l'on peut faire de cette nature ultime. Mais donc, par le biais de la connaissance, ou de la sagesse, ou de la réalisation, ou et, on devrait dire, et de la réalisation, eh bien, comprendre que tous les phénomènes sont libres d'existence propre. Ici, la mame demandait ce que signifie tsema, donc les caractéristiques. En fait, la mame précise en disant tsema.
Tsema, am, dembar, dembar, lo, lo, tatala.
Non. En fait, en clair, là, dans ce contexte, ça veut dire être libre de la réification. Être libre de l'idée que les phénomènes possèdent une réalité.
Non.
En bref, ça veut dire être libre de la saisie d'une réalité. Non. Donc, il est nécessaire d'être libre de cela. C'est-à-dire être libre du fait de croire que les phénomènes ont une espèce de réalité propre en eux-mêmes. C'est ça. C'est clair ou pas?
Oui.
Non. Et ça, c'est les 10 choses nécessaires. Non. Voilà, et telles sont les 10 choses nécessaires auxquelles, voilà, nécessaires. Ensuite, il y a les 10 choses auxquelles il faut s'en remettre. Voilà, première des choses. Non, s'en remettre à un saint maître réalisé et doté de compassion. Tout simplement, un bon maître, dit Lama Tenzin. Non. Bon, là, moi, en l'occurrence, je ne suis pas très érudit, donc je ne peux pas vraiment la faire. Voilà. Deuxième chose à laquelle il faut s'en remettre, qui nous sont donc utiles, hein, on le comprend aussi ainsi, s'en remettre à un lieu de retraite solitaire, agréable et clair. Les bonnes conditions de pratique, c'est clair. Oui, ici on parle, quoi, disons, Gampopa utilise le terme de Wempa. Wempa, c'est le lieu de retrait. Mais il faut vraiment le comprendre que, par exemple, retirer des villes, villages et donc des distractions, hein, c'est ça.
Mmh. Non.
Oui, et ensuite on parle de Chin Chakpa et.
Oui, c'est Chin Chakpa, c'est ça.
Voilà, donc c'est à la fois, en fait, c'est des lieux, on pourrait le traduire par lieux inspirants, parce que dans ces lieux ou en ces lieux, des accomplis, ils auront placé leur marque ou laissé leur marque spirituelle, leur influence spirituelle, donc d'une part, mais aussi des lieux favorables, parce que des lieux qui sont sans danger. Donc, alors au sens propre, hein, par exemple, bêtes sauvages, serpents venimeux, etc. Non, mais si on fait une retraite, avoir les bonnes conditions, on ne risque pas sa vie, ce qui est une chose importante.
Tenez, Tawan, Tumbo, Kyopayo, Tumbo, Tenkin, Lon, Tumbo, Sem, Tumbo, Tembechou, Tengris.
Là, ça.
Et là, Alors,
troisième instruction, il faut s'en remettre à des compagnons, compagnes évidemment, dignes de confiance, avec lesquels on s'accorde en pensée et en action. C'est-à-dire, oui, s'associer aux bons entourages, en fait. Non. Ensuite, gardant à l'esprit les inconvénients des objets nécessaires à notre subsistance, savoir s'en remettre à la modération. C'est tout de nouveau. C'est toute l'idée de l'attitude que l'on a aux biens, aux richesses. C'est-à-dire, on sait s'en servir, mais sans les gaspiller et sans en devenir esclave, finalement. Donc, c'est toute cette idée de modération et d'utilisation juste. Ensuite, il faut s'en remettre sans parti pris aux instructions libératrices transmises par les lignées d'être accomplies. Oui, là, clairement, c'est être vraiment sans partialité et savoir recevoir ces instructions libératrices dès lors qu'elles viennent de transmission d'être accomplies. Ensuite, il faut s'en remettre aux ingrédients, médecine, mantra, les facteurs profonds utiles aux autres et à nous-mêmes. De nouveau, c'est l'idée des conditions. Hein. Ensuite, s'en remettre aux nourritures et modes de vie qui conviennent à notre santé. Hein. Comme c'est vraiment les éléments. C'est vraiment les éléments, mais notre corps. Hein. Tout ce qui est vraiment favorable à notre santé, à notre harmonie. Oui, c'est aussi prendre soin de soi, hein, pour le comprendre comme ça. C'est d'ailleurs ce qui est bon pour nous. Ensuite, il faut s'en remettre aux enseignements et à la conduite qui favorisent notre expérience de la méditation. Dans le sens de. Donc ici, Dilama, c'est l'idée de, eh bien, d'utiliser parmi les instructions, parmi les enseignements, ce qui nous semble apte pour nous, ce qui nous semble favorable, ce qui nous semble aussi aisé d'accès, de la même manière dans les conduites, c'est-à-dire adopter les comportements qui nous sont accessibles, qui nous sont favorables et utiles. ou bénéfique, on pourrait dire aussi.
Tepa tang kupa se tegu kapar da tempe soma tengore se ngaro la tepa tang kupa yonke tegu yonke dani kesong jumke ke soma tengi tengore se.
Non. Non, il faut s'en remettre ensuite à des disciples qualifiés, confiants, respectueux, donc dignes de confiance simplement.
Hein.
Ensuite, il faut s'en remettre durant les quatre épisodes de notre activité, c'est simplement les quatre formes d'action, à une vigilance et à une présence d'esprit
continuel.
Non. Les quatre activités là en l'occurrence, c'est le fait d'être assis, le fait de manger, le fait de... Non. Le fait donc, ou alors, se déplacer, être assis, manger et dormir, dans le sens, toutes les phases de l'activité qu'elle a
nourrie.
Non. Et ici, on parle vraiment de ne pas se départir de tenshi. Tenshi, c'est vraiment l'attention vigilante. Donc, ne jamais lâcher l'attention vigilante, la présence. Non. Et ce sont là, donc, les 10 choses auxquelles il faut savoir s'en remettre.
Ah. Non.
Non,
oui.
Est-ce que la map nous dit comment ne pas lâcher la vigilance dans le sommeil?
Non. Pene, il n'y a pas de cabla, nato n'y a rien de voilà. Tene, tenché, kande, machor ya, tenché, kande, certains revola, nato, tenché, tene, chorge, revola. Machor ya, ge,
de, tapan, ma, n'y a rien de, tap, mon homme tapore.
Non. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au moment de s'endormir, on s'endort d'abord en formulant un souhait.
Alors,
l'idéal, c'est vraiment, ce serait avant de dormir, de prendre un moment, et puis, on pourrait dire, conscientiser tout ce que nous aurions pu faire, et on commence d'abord par ce que l'on considérerait comme action inappropriée. Au niveau du corps, de la parole, de l'esprit, prendre juste un instant pour prendre conscience de cela, dévoiler tout cela, dans le sens le reconnaître, et dans le but, bien sûr, de s'en purifier. Et donc, on peut réciter un mantra, par exemple, de Dorje Senpa, le court ou le long, juste pendant un instant. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, prendre le temps de considérer toutes les activités vertueuses que nous aurons, ou bonnes, que nous aurons développées. Et à ce moment-là, les dédier en totalité, mais toutes, à tous les êtres, sans aucune exception. On les leur offre.
Et
ensuite, eh bien, dans un troisième temps, faire un souhait en se disant, eh bien, ainsi, de cette manière, c'est-à-dire me purifiant de toute forme de négativité, me réjouissant et dédiant toute forme de vertu, puisse ceci en être de même pour tous les êtres sans aucune exception. Et là, après, on prend un quatrième temps où on va inspirer en pensant à la syllabe OM.
N'est pas là. Ah.
Le moment de la rétention du souffle en pensant à la syllabe A.
Donc voilà, HOM.
au moment de l'expiration, l'associer au son, si on veut, de la syllabe hum. Non. Et donc là, on peut être couché. Et donc, les différentes phases de la respiration, on va ainsi les associer, on va s'endormir là-dessus. On va s'endormir sur cette association, donc, inspiration OM, rétention légère A, naturelle. Ensuite, expiration OM, et on poursuit le cycle ainsi, et on s'endort. Non. Voilà. Et donc, ainsi, on va considérer que c'est une manière de placer, on pourrait dire, de la vertu dans notre sommeil jusqu'au moment de notre réveil.
Non.
En même temps, Om Ahum. Non. Elles vont représenter ici les trois lettres quintessentielles qui représentent les trois corps, c'est-à-dire le Dharmakaya, le Nirmanakaya et Sambhogakaya, c'est-à-dire le corps de vacuité, le corps d'émanation et les corps de jouissance. Voilà, on peut faire ça. Okay. Une autre question? Profitez-en. Quelqu'un veut encore poser une question ou pas? Non? Oui. 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 J'ai juste pas très bien. Vous faites quoi par rapport à tout ce que vous avez fait dans la journée? D'accord. Quand c'est que d'autres tenaient manier, quand là, tenaient combien là, tenaient deux mes coups d'une la dé, tenaient ni ma quand tenaient carré chez eux mais. Kanga tene dume kugi dun la tene labgiyo. C'est très bien.
Tata tene garon manduk batato tchapache.
Non.
Ndu batato tambi ngoache.
Non. Ça revient en fait à bien finalement se défaire de ce qui a été inopportun ou négatif et dédier tout ce qui a été positif et que nous avons accompli. Et faire le souhait aussi que dans le futur, eh bien, de cela, ou à partir de cela, nous puissions obtenir, ainsi que tous les êtres, de bons fruits. Non, c'est clair que si on fait ainsi, on ne gaspille pas son existence. On donne du sens. Oui.
Question sur la dédicace. Est-ce oui. Que quand on voit quelqu'un qui a une action bénéfique,
à elle? Oui. En général, c'est à nous. Mais quel si tu n'es pas le pot de la loi, 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 tu n'es pas le Parapo la pengrebe?
Pen de pen.
Alors oui, c'est aussi utile.
Parapo geva dumkin yana teke dugu yana teke gava gomna te la penyon yarba.
Mais en fait, surtout ce qui va être utile, c'est de se réjouir de l'action positive d'autrui. Si nous nous réjouissons de l'action vertueuse, eh bien cela est bénéfique.
Naronke geva mosa te la nyemjon sa taya yomare. Chugi taya yomare.
Non. Et pas, c'est vrai que quand on parle de la dédicace, là, il faut laisser de côté toutes les notions de distance, que ce soit distance dans l'espace ou distance dans le temps. Et distance aussi dans le sens des différences qu'on établirait entre les amis, les ennemis, etc. Il n'y a plus de différence au moment de la dédicace. On va s'arrêter là, on commence à
15h.